Charlie, vous ici encore une fois, mais vous êtes toujours fidèle au rendez-vous, Charlie.
Toujours fidèle au rendez-vous, c'est un plaisir d'être là, bonjour.
Ouais, c'est une joie non dissimulée. J'adore ce bonjour parce que c'est vrai qu'à la radio, c'est tout un art. C'est l'entrée en matière, comment dire bonjour. C'est souvent le point crucial de l'animateur, c'est l'entrée en matière, c'est comment on va dire bonjour, comment... Et il y a une chose simple, Charlie, c'est en début d'émission, qu'est-ce qu'on fait? On envoie le...
Générique.
Bien.
Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole. Michel Berger.
Bonjour les filles.
Bonjour Charlie.
Bonjour les filles.
Bonjour Charlie.
Les artistes ont la parole. Salut à vous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Nouvelle édition qui commence dans la joie et dans la bonne humeur avec notre ami Charlie. Et aujourd'hui, on n'est pas tout seul, Charlie, parce que nous allons parler théâtre et nous allons recevoir un acteur qui a plein de talent. Il s'appelle William Mesguich. Bonjour William.
Bonjour Michel, bonjour Charlie.
Bonjour, bienvenue à bord dans cette émission des artistes ont la parole, émission où il nous attend plein de choses, plein de trucs, et oui, effectivement, parce que nous allons retrouver Fabienne Amiac qui viendra nous parler théâtre, elle sera en duplex d'un théâtre et effectivement elle va nous parler de tout ça, ça va être, on va découvrir ça. Il y aura aussi eh bien, notre petite nouvelle chroniqueuse Jade Monville qui viendra nous parler musique, elle viendra nous parler d'un groupe, d'un chanteur. Nous retrouverons Masha Orlova, fidèle au rendez-vous, qui viendra nous parler du bonheur. C'est important le bonheur, il en faut. Et puis on terminera aussi pour les chroniques sur une note d'humour avec Garance Leroux, le tout dans une joie non dissimulée. Et c'est comme ça et c'est dans les artistes ont la parole.
Les artistes ont la parole. La minute nouveauté.
Il a plu dans la chambre. Est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai mon qui tremble. Je cherche un peu la flamme. Est-ce qu'il reste nous quelque part? Mais quand tu me regardes, je baisse un peu la garde.
Les artistes ont la parole, honneur au théâtre, honneur à William Mesguich toute la semaine sous le réseau national et international de cette émission. C'est un honneur de te recevoir, William, car à la saison dernière, nous avons reçu dans cette émission ton papa, Daniel.
Ah oui, effectivement, il l'avait fait, je me souviens.
Et maintenant, c'est toi, on s'est dit, on est là, il faut rester délicat, nous n'allons pas susciter la jalousie. Et, ouais, c'était compliqué de te contourner, William. Donc on s'est dit, on l'invite dans notre émission. Alors, William, actuellement à l'affiche.
Oui, je joue avec Daniel, justement, avec mon père, dans deux spectacles, dans le nouveau théâtre des Gémeaux parisiens, qui se trouve dans le 20e arrondissement, et qui a en quelque sorte pris la place du théâtre des Ménilmontant, qui était fermé depuis 2018. Et nous jouons avec Daniel deux duels, que nous aimons beaucoup. L'entretien de Pascal et Descartes, d'un côté, et puis Le Souper, de l'autre. Deux textes formidables écrits par Claude Briseville et que nous jouons depuis. Pour le Pascal Descartes depuis près de 20 ans et pour Le Souper depuis 6 ans. Et donc nous jouons les lundis et mardis au Théâtre des Gémeaux parisiens.
Alors, Pascal et Descartes, on peut connaître le pitch, William?
Oui, c'est la rencontre entre ces deux monstres sacrés de la philosophie du XVIIe, évidemment. Ils savent qu'ils sont l'un et l'autre. Descartes sait que Pascal est absolument génial. Et Pascal respecte infiniment Descartes, dont il sait qu'il est un très grand philosophe de son temps. Et Pascal vient rendre visite à Descartes au moment où il a rencontré les jansénistes. Il s'est accoutumé en quelque sorte avec les jansénistes, il a épousé leur cause. Et le grand Arnaud, le chef des jansénistes, vient d'être arrêté par Louis XIV, parce qu'il était dans une sorte d'opposition à la parole d'église officielle, en quelque sorte, au catholicisme un petit peu qui avait cours à l'époque, hein, et donc le roi ne l'accepte pas et fait enfermer tous les jansénistes. Et Pascal vient voir Descartes pour lui demander de signer une pétition en faveur du grand Arnaud. C'est donc une véritable demande de la part du jeune Pascal, qui va voir le plus expérimenté Descartes pour lui demander un soutien, un appui, pour défendre la cause janséniste. Bon, je peux le dire, Descartes va refuser. Descartes n'entre pas dans ce jeu religieux, en tout cas. Il n'en a que faire et continue de conserver une immense liberté et de parole, d'action. Et l'autre enjeu très important de cette conversation, de cette discussion, de cette confrontation, c'est quand Descartes demande à Pascal, dont il sait donc qu'il est un génie de ce siècle et un génie à venir aussi, d'être le perpétuateur de son œuvre, en quelque sorte, de continuer l'œuvre qu'il a fait. Et Pascal va sans doute refuser, car il n'est pas du tout en accord avec René Descartes, avec sa façon de vivre, sa façon de penser, penser la vie et la philosophie d'ailleurs. Et en quelque sorte, c'est donc un rendez-vous un peu raté entre les deux hommes. Ils sont rencontrés réellement une fois dans la vie. Et on dit souvent avec Daniel, Pascal, Blaise Pascal aurait dit à la suite de cet entretien, il n'y a pas de témoignage, pas d'enregistrement, mais ça s'est su auprès de proches qu'il avait, et ça s'est perpétué dans l'histoire en quelque sorte. Il a dit, Pascal, René Descartes, inutile et incertain. Donc ils ne se sont pas du tout entendus. C'est une joute absolument passionnante qui nous fait entrer dans l'intimité de ces deux hommes et dans leurs réflexions philosophiques, dans leurs pensées. Brigitte a écrit un texte très brillant avec des petits moments d'humour, des moments plus émouvants, des moments plus violents. Il avait tout à fait, Jean-Claude Brigitte, cet art de faire converser les personnages historiques, tels que Talleyrand et Fouché d'ailleurs dans le souper, avec beaucoup d'à-propos, un travail énorme sur la langue, à la manière de beaucoup dix-septièmistes ou dix-huitièmistes, une langue un peu châtiée, très belle, mais aussi une manière un peu de vulgariser la pensée des deux philosophes pour éviter l'écueil de quelque chose d'un peu trop lourd, d'un peu austère en quelque sorte, et qui aurait rebuté l'auditoire. Non, non, les gens adorent, on a joué peut-être près de 500 fois depuis 20 ans, et à chaque fois, on rencontre, j'allais dire un grand succès, en tout cas une adhésion de la part de l'assistance, parce que les gens qui sortent de cette joute, de cette confrontation, se sentent plus intelligents, en tout cas, sont rentrés dans la pensée des deux grands philosophes. Modestement, mais ils y sont rentrés, donc on continue de se régaler avec ça.
William Mesguich avec nous dans Les Artistes ont la parole, donc c'est un moment à ne surtout pas manquer. Et dans le même théâtre, on imagine que c'est à une heure et un jour différents, il y a Le Souper.
Oui, Le Souper, on le joue depuis environ 5 ans, 6 ans, on l'a joué un peu plus de 130 fois maintenant. Et c'est un texte magistral hein, de Jean-Claude Brisville, toujours le même auteur. Nous jouons Le Souper le lundi, de Pascal et Descartes le mardi, donc en alternance un jour sur deux dans cette semaine-là. Nous ne jouons que deux fois dans la semaine, mais c'est un rendez-vous exquis au-delà de ce que nous mangeons, parce qu'effectivement, c'est une confrontation à nouveau formidable, magistrale, entre deux grands hommes de ce 18e, de ce début du 19e, au moment où Napoléon Ier a perdu la bataille de Waterloo contre les Anglais en 1815, 1814, 1815. Et effectivement, les deux hommes sont confrontés, Joseph Fouché, chef de la police sous Napoléon, personnage éminemment important dans le régime de Napoléon, et puis Talleyrand, Henri Talleyrand, qui était le ministre des Affaires étrangères et qui a traversé aussi un certain nombre de pouvoirs, si j'ose dire, et qui a conservé un rôle prépondérant dans cette France-là, de ce temps-là. Et ces deux hommes sont confrontés lors d'un souper pour décider tout simplement du sort de la France, au moment où les Anglais sont dominants. Et où Wellington, le chef anglais, s'en réfère quand même à des personnalités importantes sous Napoléon pour leur demander où la France pourrait aller. Est-ce que la France ira vers la Restauration, donc de nouveau vers une monarchie en quelque sorte, avec Louis XVIII, avec Louis XVI bien sûr, son frère, ou alors, ce que souhaite Fouché évidemment, car il n'est pas tout à fait du côté des aristocratiques et il a voté à la mort de Louis XVI, donc Louis XVIII en voudrait certainement, ou alors vers la République, donc hein, vers une République et il y aura un petit bout de restauration, mais surtout de la République, et ça nous mènera vers notre sentier. C'est un texte absolument formidable, d'intelligence, de rhétorique, de précision, d'acuité, de virtuosité. Brigitte a vraiment écrit une joute remarquable, un duel, hein, à couteau tiré, entre quasiment les deux hommes les plus influents en France de ce temps-là. Et évidemment, chez Talleyrand, dans des conditions un peu luxueuses, un peu classe, et ces deux hommes-là ont besoin l'un de l'autre, mais se haïssent autant qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et c'est toujours un immense plaisir que de jouer ce texte avec mon père. Un texte qu'ont immortalisé évidemment Riche et Brasseur en leur temps, et aussi au cinéma sous l'œil de Molinaro, qui évidemment la pièce s'était transformée en film. C'était pas mal d'ailleurs, c'était vraiment chouette, huis clos. Et les gens adorent également, ils sont presque à la table avec nous
William Mesguich, avec nous, dans Les Artistes ont la parole. Voyez, on se régale, Charlie, on parle théâtre, et on parle encore théâtre, avec Fabienne Amiac, tout de suite, qui nous rejoint. Bonjour Fabienne.
Les Artistes ont la parole, côté scène, Fabienne Amiac.
Bonjour cher Michel, bonjour aux auditeurs des Artistes ont la parole. Alors, si vous passez devant une affiche où il y a marqué Ruben, n'hésitez pas à aller voir ce spectacle. Il est exceptionnel. À la fois imitateur, chanteur, il vous entraîne dans un monde absolument irréel, d'imitation, de chansons. Il a un humour à dépoter. Il est belge, et oui, et français aussi. Et donc, il s'appelle Ruben. Il était au théâtre de la Grande Comédie. Il va être en tournée en France et en Belgique. Je n'ai pas de date encore à vous préciser, mais je vous assure que si vous voyez marqué Ruben, n'hésitez pas à réserver parce que c'était complet, un one-shot complet. Franchement, c'est pas tous les jours. Et puis, je suis allée voir aussi aux Trois Baudets un jeune compositeur de talent, Lionel Langlais, qui mérite le détour. C'est un romantique. Vraiment, lui, il est musicien à texte, avec beaucoup de poésie, une musique qui nous transporte dans un monde, vous savez, où il y avait encore ces jolis rêves de fleurs, de nature, de vie, d'espoir, d'espérance, où cette immersion dans le rêve était encore possible. Alors, c'est vrai que si vous avez l'occasion de voir Lionel Langlais, eh bien, n'hésitez pas. Là aussi, pas de date pour l'instant, des one-shot, mais il va revenir sur la scène parisienne. Je l'ai vu, c'était aux Trois Baudets, et d'après ce que je sais, il va y retourner. Bonne séance.
Merci Fabienne. Les artistes ont la parole. C'est du talk, c'est aussi de la musique, n'est-ce pas Charlie?
Oui, tout à fait.
On
est obligé de parler.
Bah oui.
Parce que c'est de la radio aussi.
Bah oui. Et puis, y a un morceau, un groupe que vous adorez. Ils nous viennent d'Irlande. Les montagnes d'Irlande, ça vous dit, Charlie?
Non, pour le moment non, mais les premières notes vont me dire quelque chose.
Bah oui. U2, dans Les Artistes ont la parole, avec The Beautiful Day. C'est tout de suite, ça. C'est pour vous.
Les Artistes ont la parole.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Broken by clouds.
Artistes ont la parole, talk show multimédia numéro 1.
Grâce à vous et merci de votre fidélité, soyez les bienvenus, n'est-ce pas Charlie? C'est aussi grâce à vous. C'est aussi grâce à vous. Ben oui.
C'est grâce aux auditeurs et à leur fidélité surtout.
La fidélité. C'est ça qui est le plus important. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous aime, c'est pour ça qu'on tient à vous, vous qui nous écoutez. Et en plus, cette semaine, à l'honneur, William Mesguich, que vous pouvez applaudir aux côtés de Daniel Mesguich dans un beau théâtre, le théâtre des Gémeaux Parisiens. Donc c'est sur la capitale, à Paris, c'est en métropole. C'est un endroit à ne surtout pas manquer parce que vous pouvez applaudir Pascal et Descartes et Le Souper. Et on dit jamais 203, William. Peut-être qu'il y en a une troisième qui se cache.
Ah, je ne sais pas. On a joué les deux spectacles près de 700 fois. Je pense que, enfin, on nous a proposé des choses, d'autres duos, mais peut-être que les aventures sont très belles et il n'y aura que celle-là. Moi, j'ai d'autres projets. D'ailleurs, il y en a évidemment. On continue de jouer ce spectacle aussi en tournée. On va partir à Fort-de-France au théâtre Aimé Césaire pour jouer de Pascal et Descartes. On va au Théâtre d'Évian au mois de novembre pour jouer Le Souper. Mmh. Il y aura sans doute encore quelques dates de tournée suite à l'exploitation parisienne aux Gémeaux Parisiens.
Ouais.
On a joué les spectacles plusieurs fois à Avignon, on a joué au Théâtre de Poche-Montparnasse, au Théâtre de l'Œuvre. Là maintenant aux Gémeaux Parisiens, on a joué à peu près 120 fois en tournée, 140 fois même les deux spectacles confondus. Je pense qu'on en restera là, mais on adore se retrouver parce qu'on est très complices. Il y a beaucoup d'admiration l'un pour l'autre, et on aime jouer ces deux spectacles. Voilà.
Alors, je rebondis sur Avignon. On sait que tu as fait Avignon 2024. Oui. Qu'est-ce que tu retires de ce festival, William?
Ça a commencé bizarrement avec ce décalage dans les dates entre plusieurs lieux, entre le off officiel et puis certains lieux majoritaires qui voulaient commencer comme le off l'avait proposé, demandé, et comme ça avait été voté, mais des lieux un peu dissidents, enfin une trentaine, mais parmi les lieux plus importants, ont voulu démarrer une semaine plus tôt. Ça a créé un peu de confusion avec les Jeux Olympiques aussi.
Oui.
Non, pas de problème, mais qui nous inquiétaient pour la fréquentation. Bon, finalement, les premiers jours ont été très durs. Hein. Il n'y a eu pas trop de monde à partir du 29 juin, sauf pour quelques spectacles, avec sans doute quelques stars ou des gens tout à fait repérés. Et puis, ça a pris son envol, et il y a quand même eu beaucoup de monde, moins de monde que précédemment, malgré tout, sans doute, mais quand même beaucoup de monde, quand même beaucoup de programmateurs. Moi, je saurais pas trop quoi dire. Je présentais 8 spectacles cet été, dont j'en jouais 2, mais j'en présentais 6 autres en mise en scène.
Ah oui.
Mais les deux aussi dans lesquels je les avais mis en scène. J'ai pas eu de problème majeur, mais je jouais dans des lieux plutôt intéressants. Mais je peux pas dire, il y a sans doute des lieux qui ont souffert, des compagnies qui ont souffert. Voilà, c'était une belle aventure. Moi, ça a été nouveau pour moi aussi parce que ça faisait 5 ans que je jouais ou 3 ou 4 spectacles par jour, donc avant le Covid, hein. Hors le Covid en 2020 bien sûr, et là je n'en jouais que 2 si j'ose dire, et ça m'a fait du bien, et j'ai vraiment apprécié cette édition pour cette raison aussi. C'est un petit peu plus égoïste, mais parce que tout à coup, j'ai un peu moins joué dans la journée, même si le Richard III que j'ai mis en scène et que j'interprète avec 7 comédiens à mes côtés est tout à fait épuisant, je sortais de là à 23h et quelques au Gémeaux d'Avignon, un peu fracassé parce que c'est très violent.
Ah, c'est clair.
Mais c'était agréable de pouvoir parler aux gens dans les files d'attente, c'était agréable de pouvoir manger un peu plus tranquillement, d'aller voir d'autres spectacles. Et pour moi, c'était une belle édition parce que ça m'a montré à quel point jouer deux spectacles, tout allait bien. Et je le savais, mais je m'étais infligé, enfin en tout cas, j'avais les 4 années précédentes joué ou 3 spectacles en 2023 ou 4 par jour en 19, 21 et 22, et c'est quand même beaucoup. Et je me suis rendu compte que voilà, on pouvait vivre un Avignon un peu plus tranquille, si j'ose dire, mais en jouant quand même 2 fois dans la journée, ce qui n'est pas rien. Donc j'étais assez heureux. Et puis les spectacles ont eu pas mal de succès, comme je vous le disais. Le Richard III s'est bien passé, les Forêts de Sibérie. Enfin, l'ensemble des spectacles que j'ai joués ont connu un bel écho. Et j'étais très heureux de travailler avec les gens qui faisaient partie de ces spectacles, parce que j'aime les gens. Je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de talent, et les gens avec lesquels je travaille ont du talent. Et sont souvent très adorables à mon égard, donc c'était chouette de les côtoyer.
On t'a loupé en tout cas, hein, pour le coup, hein, parce que nous étions l'équipe des artistes en parole sur le festival Off d'Avignon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces, et c'est un truc énorme. C'est un truc énorme.
Oui, 1600 pièces, oui, moi je... Oui, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles, il y a une concurrence folle pour la presse, pour les programmateurs. Moi, je connais tellement de gens, mais on ne peut pas aller voir tous les spectacles. Et même parfois, on va en voir très peu à Avignon parce qu'on est concentré sur son propre spectacle. Moi, je mets un point d'honneur quand même à voir pas mal de choses. Sauf quand je joue 4 fois par jour, parce que là, c'était vraiment pas possible de jouer 6 heures par jour et d'aller voir d'autres choses. J'ai été voir un ou deux spectacles sur la fin, mais oui, il y a une ambiance toujours survoltée, très concurrentielle, assez violente malgré tout, parce que c'est un peu difficile, hein, de donner du spectacle tout le temps, mais c'est quand même chouette aussi.
Charlie, le micro est à vous.
Oui, Michel. Merci beaucoup. William, moi, je voulais savoir comment on fait quand on est dans une famille de 5 enfants et t'es seul garçon, il n'y a que des filles. Ça n'a pas été trop dur.
C'est vrai, j'ai 4 sœurs que j'adore et je suis l'aîné. Bah, ça n'a pas toujours été facile. Facile parce que. Elles imposent, mes sœurs ont toujours imposé une solidarité entre elles, mais voilà, j'ai dit le grand frère, alors à la fois adoré, parce qu'il y a entre nous une immense tendresse, un grand amour, et on est très liés, et le fait d'être l'aîné représente quand même quelque chose, et en même temps, il y a eu des moments difficiles, parce que voilà, j'étais le seul garçon, parce qu'il fallait parfois aussi un peu s'opposer à ce... voilà, au fait que j'étais le plus grand, le plus âgé. Alors, j'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi, une autre qui en a 10 de moins et une autre 14 de moins. Et puis, j'ai une demi-sœur encore plus petite qui a 7 ans actuellement. Donc, il y a eu comme ça presque plusieurs générations. Enfin, mes deux sœurs qui ont 10 ans et 14 ans de moins que moi, je les ai un peu moins côtoyées à un moment donné que celle qui n'en a que 3 de moins, Sarah. Oui. Parce qu'effectivement... ça a été un petit peu en deux fournées, si vous voulez, et puis ensuite j'étais quasiment adulte quand mes deux plus petites sœurs grandissaient. Mais on a toujours été très liés, on a beaucoup joué ensemble. D'abord, on a joué ensemble par tendresse, par amour, quand on était plus jeune, chez mes parents, bien sûr, en vacances, partout. Mais ensuite, on a aussi joué beaucoup ensemble au théâtre. J'ai engagé 2 de mes sœurs à plusieurs reprises dans des spectacles. On a joué tous les 3, donc Sarah, Rebecca et moi-même, sous la direction de notre père, pour plusieurs spectacles, dans Hamlet et dans Le Prince Travesti. Dans Antoine et Cléopâtre, dans Le Prince de Hombourg. Enfin, on a fait énormément de choses. On est vraiment... on est très liés. On est, je ne sais pas si on est un clan ou une tribu. On dit parfois la tribu Nesguiche un petit peu. Alors, voilà, des familles de théâtre comme ça.
Jessica et Ezekiel, elles n'ont pas joué, elles.
Pardon ?
Jessica et Ezekiel n'ont pas joué.
Et non, Jessica, elle est prof de philosophie. Elle écrit magnifiquement, notamment pour le théâtre et de la poésie, mais elle est prof de philo. Mais c'est formidable. Hein. C'est un métier formidable en lycée. En Seine-Saint-Denis, et puis la petite Ezekiel qui a 7 ans, pour l'instant, c'est trop tôt, c'est trop jeune. Mais elle a assisté déjà, la petite Ezekiel, à nombre de spectacles de son papa ou de ses frères et sœurs ou de ses nièces, puisqu'elle est. J'ai même un neveu qui a commencé à jouer, et donc c'est pas sa nièce, la petite Ezekiel, c'est elle qui est sa tante. Voilà, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Et donc effectivement, tous les enfants de la famille Nesguiche ont assisté. Mes parents ont 12 petits-enfants, donc mes sœurs ont des enfants, moi-même j'en ai 2. Et donc, on va souvent au théâtre, on va voir les spectacles des uns, des autres, les spectacles jeunes publics, les spectacles à Avignon. Il y a une sorte de frénésie collective, familiale et théâtrale absolument extraordinaire que d'autres doivent connaître, mais que nous aussi nous connaissons très fortement, et on est très heureux de ça. Parfois ça crée aussi des tensions, il faut bien l'admettre, des petits moments d'incompréhension, mais avant tout c'est beaucoup de solidarité, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour entre nous, ouais. Beaucoup de liens.
On le ressent dans ton parler, hein. Ouais. 1998, tu rencontres Philippe Fenwick, ou tu le connaissais déjà peut-être avant, et vous faites la création de la compagnie de l'étreinte.
Oui, c'est ça. On a créé une compagnie au sortir de notre apprentissage théâtral chez Pierre Debauche, grand homme de théâtre, au Théâtre du Jour à Agen. Et on a cheminé ensemble avec Philippe pendant 12 ans avant de faire un peu notre chemin chacun de son côté pour des raisons... d'envie théâtrale, j'allais dire. Moi, je souhaitais quelque chose m'aventurer de nouveau dans des classiques, et lui souhaitait réinventer comme ça les grands textes.
William Nesguiche à l'honneur dans Les Artistes ont la parole. On va retrouver tout de suite, sans plus attendre, n'est-ce pas Charlie, Jeanne Monville qui va nous parler musique tout de suite. Bonjour Jeanne. Les Artistes ont la parole. Les Chroniques de Jeanne. Jeanne Monville.
Bonjour tout le monde, ainsi qu'à nos auditeurs et auditrices. Cette semaine, nous parlons amour dans Les Artistes ont la parole. Mais attention, pas n'importe lequel. Le grand, l'extraordinaire. Celui qui nous fait dire « Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. » Celui qu'on vit intensément et qu'on n'oubliera jamais. Et oui, cette semaine, on rêve et on a le cœur enflammé dans cette émission depuis que la version de l'hymne à l'amour de Céline Dion est disponible sur les plateformes de streaming. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais ici, on ne peut plus s'arrêter de l'écouter. Alors aujourd'hui, avec vous, on va retracer l'histoire de cette chanson qui en a fait pleurer plus d'un. Avez-vous déjà entendu parler de la grande histoire de Madame Édith Piaf, du grand amour de sa vie ? Laissez-moi vous présenter Marcel Cerdan, un boxeur renommé qui parcourt le monde en quête de combats, d'adversaires et bien sûr de victoires. En 1948, dans le vieux New York qu'on voit dans les films en noir et blanc, il rencontre Édith et c'est tout de suite le coup de foudre. Le couple s'installe ensemble, l'une en tournée mondiale par Mons et par Vaux, chanteuse talentueuse, réputée et reconnue dans le monde entier, et l'autre sportive de haut niveau. Une histoire passionnelle, magnifique, digne d'un roman de Jane Austen. Une histoire qui fera naître dans le cœur d'Édith, un an plus tard, en 1949, l'hymne à l'amour. Sur une musique de Marguerite Monod, grande compositrice à l'origine de nombreuses chansons d'Édith Piaf, la chanson contient tout ce que la célèbre chanteuse ressent à l'égard de son amour. Mais voilà, en 1949, un drame terrible survient. Marcel Cerdan décède dans un accident d'avion qui devait normalement le mener au concert d'Édith à New York, le soir même. Lorsque la chanteuse apprend la nouvelle, elle décide de monter tout de même sur scène, où elle chantera l'hymne à l'amour pour célébrer l'amour de sa vie, avant de s'évanouir devant son public. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme une des plus belles chansons françaises d'amour jamais écrites. Pour conclure, n'hésitez pas à aller écouter la version de Céline Dion, disponible sur toutes les plateformes. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine dans Les Artistes ont la parole.
Merci Jeanne, on a appris plein de trucs, n'est-ce pas Charlie hein? On apprend plein de trucs avec Jeanne. Et on va prendre l'avion tout de suite, Charlie, ça vous dit ?
Oui, avec plaisir.
Ouais, c'est parce que c'est vous, c'est en 45 tours que nous avons retrouvé les Motors. Ça vous rappelle des souvenirs, ça ? Ah ouais.
Hey.
Airport, c'est dans Les Artistes ont la parole. Et c'est pour vous.
Les Artistes ont la parole.
Destination faces, going to so many places, where the weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggage, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants to leave me. And it's getting me so. It's getting me so warm.
Les artistes ont la parole, merci de votre fidélité. Ça y est, les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. Il serait quand même temps, effectivement, parce que pour ne rien vous cacher, cette émission a démarré depuis un certain temps, n'est-ce pas, Charlie?
Tout à fait, mais vous avez la possibilité de nous voir en replay. Si vous avez raté le début, bah c'est dommage, mais vous pouvez nous revoir dans cette émission consacrée à William Mezlich. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, Michel, c'est que l'émission, enfin toutes les émissions depuis un bon moment maintenant, sont sous-titrées en temps réel pour faire découvrir à nos malentendants la radio et la télé.
Tout à fait. Vous pouvez retrouver le sous-titrage sur la version vidéo des artistes ont la parole, sur lesartistesontlaparole.tv.com. Et puis, concernant les podcasts, lesartistesontlaparole.fr. Voilà, et tout est dit. Avec William Mezlich, qui est à l'honneur dans cette émission toute la semaine sur le réseau national et international. Vous êtes nombreuses et nombreux, et c'est vrai, continuez comme ça. Il faut qu'on parle des artistes davantage, et si on est là, c'est grâce à vous. Alors, William Mezlich, on rappelle que tu es au théâtre des Gémeaux Parisiens. C'est superbe théâtre, à ne surtout pas louper. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, faut venir sur la capitale, faut venir sur Paris pour applaudir William, accompagné de Daniel Mezlich, son papa, pour Pascal et Descartes. Ça va se dérouler jusqu'au 17 décembre 2024. Et il y a aussi le souper. Le souper qui, lui, va se jouer jusqu'au 30 décembre 2024. J'ai bien appris ma leçon, William.
C'est ça. Oui, nous jouons ces deux duos dans le nouveau formidable théâtre des Gémeaux Parisiens, dirigé formidablement aussi par Nathalie Lucas et Serge Pommier, qui dirigent également les Gémeaux Avignon. Les Gémeaux Avignon, qui maintenant est un des lieux phares du Festival OFF d'Avignon. Et le théâtre a ouvert ses portes. L'inauguration a eu lieu le 16 septembre dernier.
En effet. Charlie.
Oui, Michel. William, j'ai une question. Comment peut-on faire, donner la réponse bien sûr, pour jouer trois pièces dans la même journée et assurer deux mises en scène?
J'ai toujours l'habitude de faire beaucoup de choses en même temps. Alors là, vous me direz, c'est quand je jouais même en 19, 21 et 22, 4 spectacles par jour, et en 23, donc 3. C'est quand même beaucoup. Mais j'ai toujours eu l'habitude, quand j'étais plus jeune, de faire plein de choses à la fois. J'ai été aussi à bonne école avec mon père, qui est un orfèvre en la matière. Il a beaucoup fait de ce côté-là, qui à la fois tournait, faisait de la radio, donnait des cours au Conservatoire National, mettait en scène, jouait. Moi, j'ai eu cet exemple. Voilà, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je crois que oui, en tout cas, pour pouvoir passer d'un monde à un autre très rapidement et avoir une capacité d'analyse et de prise en charge des projets le plus efficacement, le plus formidablement possible, j'espère. Et en tout cas, avec facilité. Je ne sais pas, ce n'est pas toujours facile, mais c'est absolument passionnant. Il faut dire que les mises en scène souvent existent. Donc, je ne suis que le relais où je ravive les choses pour qu'il y ait du jeu au Macbeth ou Richard III ou d'autres textes, ou Art aux Passions, ou Les Forêts de Sibérie. Il faut être très très présent au moment où on joue, et là je ne peux pas me cacher, bien sûr, mais pour les mises en scène c'est un peu différent. Je vais de temps en temps voir les spectacles, je prends des notes, je ravive, je corrige, j'affine, mais c'est aussi un soutien, une solidarité. Mais moi j'aime passer d'un monde à un autre, ça ne me pose pas de problème. Je respecte les gens qui font un spectacle de temps en temps, ou un spectacle par Avignon, et je crois qu'il faut aussi entendre qu'on peut en faire plusieurs, et tout à fait bien se comporter, être à l'auteur de chaque projet autant que faire se peut, et être heureux de son sort. Moi, je suis très heureux de mon sort.
c'est presque un exercice de faire plusieurs spectacles plutôt qu'un seul. Par rapport à toi, si tu avais un spectacle, tu serais peut-être un peu perdu.
Alors que quand je joue mon père, ça a duré 3 heures. Et là, quand je joue tout à coup Les Forêts de Sibérie, Richard III et le souper, voilà, on est à peu près un peu plus de 3 heures, mais c'est pas non plus incroyable. Je joue pas non plus 7 heures, je joue pas 10 heures par jour. Je fais pas une intégrale de Gosselin ou d'Olivier Py ou de Thomas Joly. Enfin, mais ça demande quand même une grande concentration, une grande précision, d'être à la hauteur pour chaque projet, puisque les gens de tel ou tel projet n'ont cure du fait que j'en fasse d'autres. Il faut que je sois présent au moment où je joue avec les gens. Et je le fais parce que j'ai une grande résistance, j'ai fait beaucoup de football dans ma vie, je suis un grand sportif, je crois, et j'ai une capacité à la résistance, non pas hors du commun, mais qui est importante, comme plein de gens, mais disons que moi je le mets en œuvre au théâtre et j'aime ça.
En parlant de foot, ton footballeur préféré, William?
Ah, le shooter, moi, j'ai une passion comme beaucoup de gens pour Mbappé, mais j'ai été bercé dans mon enfance par Michel Platini ou Alain Pires et entre les deux, on va dire Zinedine Zidane, ouais, les plus grands. Mais j'aime aussi Dominique Rocheteau, j'aime aussi Batiston, Jean Tigana. Enfin, je suis un grand spécialiste du football parce que j'ai failli être footballeur professionnel. Enfin, en tout cas, j'étais dans un centre de formation et j'aspirais à devenir footballeur, ce qui est un parcours un peu atypique, un peu étrange. J'ai basculé dans le théâtre un peu tard, à 19 ans, même si j'étais tombé dedans quand j'étais petit. J'ai un jour convoqué mes parents pour leur dire que je voulais faire du théâtre. J'aurais voulu être journaliste ou prof de français, j'avais d'autres possibilités, mais je me suis dit que je voulais tenter l'aventure théâtrale pour ne pas avoir à le regretter 30 ans plus tard. Et je suis tellement heureux d'avoir tenté l'aventure et d'être dans ce monde-là. Si vous... Et j'aime encore beaucoup.
Au tout début, William, c'est pas dur de porter le nom de Mesguiche.
Très dur, très dur. Je vous assure, très dur. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a été toujours très difficile. Depuis mes années au collège, où certains profs de français m'en voulaient d'être le fils de mon père, ou en voulaient mes sœurs de s'appeler Mesguiche, vraiment, hein, et où on nous punissait, en tout cas, on était dur avec nous jusqu'au journaliste actuellement. Un petit peu changé parce que je me suis un prénom depuis maintenant quelques années, bien sûr, mais au départ, j'étais vraiment le fils de. On me regardait d'un air étrange quand je faisais mes études théâtrales. Tout le monde disait c'est le fils Mesguiche, il est avantagé. Pareil, d'autres comédiens, des programmateurs, ils disaient on ne va pas apprendre le fils Mesguiche parce que sinon c'est trop facile. Donc en fait, qu'on l'ait apprécié, qu'on apprécie mon père ou pas, j'ai toujours été attendu au tournant. Certains qui l'aimaient beaucoup et qui l'aiment encore ont voulu que je fasse mes preuves et c'était normal. On ne peut pas avantager le fils, voyons, sinon on va être accusé de népotisme. Enfin, c'est trop facile. Et alors, ceux qui ne l'aimaient pas ne voulaient pas entendre parler de moi. Donc, j'étais vraiment coincé. Il a fallu que je me. D'ailleurs, je vais faire un spectacle sans doute un peu autobiographique. Enfin, je vais raconter un peu mon parcours dans un an et demi. Je suis en train de préparer une chose où je vais raconter beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui me sont arrivés pour le meilleur et pour le pire, avec des moments de joie et des moments vraiment de désespérance parce que j'ai dû résister avec mes sœurs. Mes sœurs ont changé de nom. Moi, j'ai décidé de garder mon nom. Parce que c'était trop tard pour en changer. Et puis, j'avais pas envie. Il y avait une sorte de fierté, de volonté de m'affirmer et d'exister en tant que William Mesguiche. Mais on n'a que 20 ans d'écart avec mon père. Ça n'a pas été facile. J'ai été vraiment très, très longtemps dans l'ombre, très, très longtemps. Il y a un peu plus de lumière parce que mon père est un peu plus âgé maintenant. Il fait un petit peu moins de théâtre et que moi, je me suis davantage affirmé. Mais ça a été vraiment difficile, très difficile, je vous assure. Et tous les gens qui disent, ouais, c'est facile quand t'es fils de. Non. C'est très difficile. On n'est pas du tout. On est un petit peu avantagé par moment, mais c'est tellement pour après des moments plus durs à vivre que je ne sais pas si c'est un avantage, au fond.
C'est difficile donc de se faire un prêt.
Vraiment, vraiment. Mais c'est bien de se battre. Il faut se battre.
Toujours se battre, effectivement. William Mesguiche à l'honneur dans Les Artistes ont la parole. On va retrouver tout de suite quelqu'un qui adore se battre avec le bonheur. C'est Masha Orlova dont Les Artistes ont la parole. Bonjour Masha. Les Artistes ont la parole. Les petits bonheurs de Masha. Masha Orlova.
Bonjour Michel et bonjour à vous. Avez-vous déjà réalisé des listes ? Ne serait-ce qu'une liste de courses ou la liste de ce que vous aviez à faire pendant la semaine ? Mais saviez-vous que cela peut devenir un véritable art de vivre ? Par leur forme concise et leur facilité d'adaptation à tous les domaines de votre vie, les listes peuvent vous aider à la simplifier, l'organiser, mais aussi à vous projeter, à rêver en grand et à ajouter de la joie dans vos journées. Et quel moment de bonheur quand à la fin de la journée ou de la semaine, vous rayez une ou plusieurs lignes de votre liste. Au Japon, on est habitué à faire des listes dans son journal intime. Ce journal est utilisé pour tenir des listes de tâches, mais également des listes de souhaits ou même d'observations. Relater les événements de votre vie personnelle dans un style court, simple, permet de s'alléger de tout encombrement mental ou émotionnel. Ça permet de se sentir moins angoissé et également de mieux dormir. Il y a évidemment plusieurs sortes de listes. Des listes pour gagner du temps et organiser sa vie. Des listes pour clarifier votre mental et l'alléger. Une fois votre liste établie, vous vous sentez plus lucide, plus légère dans votre quotidien, car vos obligations et vos pensées ont été couchées sur le papier. Faire des listes est aussi une façon de savourer la vie, en vous intéressant de plus près à toutes ces choses qui participent à votre bonheur. Vous pourrez par exemple énumérer les saveurs les plus réconfortantes au monde, les odeurs qui vous touchent, les chansons qui vous donnent de l'énergie, celles qui vous font pleurer, les voyages qui vous ont marqué. Faire des listes permet de s'interroger sur soi, d'apprendre à mieux se connaître, à apprivoiser son monde intérieur. Vous pourrez y noter des projets de voyage, de carrière, les expériences que vous avez vécues ou que vous avez envie de vivre. Pour ma part, j'ai écrit la liste des petits moments de bonheur dont j'avais envie de vous parler. Et aujourd'hui, je vais pouvoir en rayer une de plus. À bientôt.
Merci, Macha. William Mesguich, à l'honneur dans Les Artistes ont la parole. Et c'est William, le disque jockey de cette émission, William Mesguich, qui nous a choisi Renaud. Renaud, on va retrouver la pêche à la ligne. Qu'est-ce que tu adores chez Renaud, William ?
Quand j'étais plus jeune, moi, il n'y avait pas tout ce qui était numérisé, évidemment. Donc certains chanteurs, dont Renaud et Goldman notamment, mais pas que, hein, j'aimais aussi quand même. Bref, il y a plein d'autres formidables, bien sûr, mais je recopiais les paroles. J'avais des vinyles, comme beaucoup de gens, et j'arrêtais le vinyle à un moment donné pour écrire les paroles, ou alors avec un radiocassette, je pose, pour tout à coup écrire les paroles. J'ai toujours aimé son côté, je le connais un petit peu d'ailleurs, parce que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, il a un peu changé, mais il est toujours formidable. Son côté rebelle, son côté rock, rock dans son côté, quoi, peur de rien. Et puis une personnalité.
Renaud, tout de suite, voilà. La pêche à la ligne, c'est pour vous.
C'est à peine l'aurore et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y'a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Le soleil arrive, mon amour se réveille, le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi je sors une truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. Je reviens les mains vides, trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Alors je rentre chez moi, triste comme un menhir. Mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti pour toujours. J'ai perdu mon amour et j'ai perdu ma vie. Si je peux, la gamine, s'emmêler dans les branches, à la pêche à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, s'emmêler dans les branches, à la pêche à la ligne.
Les artistes ont la parole, merci d'être ici, vous êtes les bienvenus si vous venez juste de nous rejoindre. Oui, il serait quand même temps de nous rejoindre. Hein. Charlie, à mes côtés, et invité d'honneur, William Mesguich. William Mesguich, ça va toujours ?
Ça va toujours, très bien, oui, merci.
Toujours, très bien. William Mesguich, on vous rappelle que vous pouvez applaudir au théâtre actuellement sur la capitale, au théâtre des Gémeaux parisiens pour Pascal et Descartes et Le Souper. Alors, question, est-ce qu'il va y avoir une tournée nationale, William ?
En fait, on a déjà, avec Daniel, avec mon père, on a beaucoup joué ces deux spectacles en tournée, mais il y aura encore des dates à venir suite aux Gémeaux parisiens, mais je ne peux pas dire ou tout de suite. En revanche, on a joué environ, oui, je le disais, environ 140 fois en tournée nationale, ces deux spectacles confondus dans les 10 dernières années. Donc, on a déjà pas mal écumé les lieux de France, mais il en reste, vous savez, il y a à peu près 2000 et quelques lieux en France, donc il y a de quoi faire encore. Voilà, mais il y aura sans doute d'autres représentations en Île-de-France et en région pour la saison 25-26, oui. Mais je ne peux pas tout à fait dire encore, c'est en train de se négocier maintenant.
Affaire à suivre, on imagine qu'on peut suivre vos infos sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Facebook, sur Instagram. Oui, je prépare d'autres spectacles. Je prépare notamment deux très beaux textes. L'un autour de la relation entre Gauguin, Paul Gauguin et Vincent Van Gogh. J'interpréterai Van Gogh pour le prochain Festival d'Avignon, notamment au Gémeaux d'Avignon. Et puis, c'est un texte de Chris Paillet. Chris Paillet, il est mis en scène et écrit un Chaplin au Lucernaire formidable. Aussi, Un soir chez Renoir. Un formidable metteur en scène, auteur, et je suis ravi d'interpréter après Le Dernier Jour d'un Condamné, après Les Forêts de Sibérie, après Art aux Passions, Macbeth, Hamlet, Richard III, un autre personnage très très fort, Vincent Van Gogh, absolument génial. Et puis je prépare aussi Des fleurs pour Algernon, vous connaissez peut-être ce texte. C'est un texte de Daniel Kyse que Grégory Gadebois, le formidable comédien mais qui fait beaucoup de cinéma maintenant, avait immortalisé il y a quelques années. Je vais le jouer également au prochain Festival d'Avignon et je jouerai le rôle de ce jeune homme à qui on fait subir une intervention chirurgicale pour améliorer son QI. Et on va se rendre compte qu'à un moment donné, le produit ne va plus faire effet. Et voilà, va-t-il s'en sortir ? Redeviendra-t-il une sorte de légume ? Enfin, c'est un texte terrifiant. Donc, je pars sur de nouvelles aventures avec deux textes très puissants, très forts.
Peut-être va-t-il manger du poisson ou des oméga 3 ?
Peut-être. Mais c'est vrai que cet homme va devenir ultra intelligent. Et puis, à un moment donné, voilà, est-ce que cette expérience médicale, scientifique, fantasmé, va opérer, c'est le cas de dire, va aller au bout ou pas. Et c'est un texte extrêmement émouvant, extrêmement terrible, d'une émotion, d'une violence inouïe. Et Van Gogh, évidemment, c'est pas une chose non plus absolument joyeuse, mais c'est passionnant dans la relation qu'il a entretenue pendant 9 semaines, avant de se trancher l'oreille, hein, justement, avec Paul Gauguin.
Les artistes ont la parole. On va retrouver quelqu'un qui va nous rajouter du bonheur et qui va nous faire rire. Eh ben oui. Et puis elle était au Festival d'Avignon cet été. D'ailleurs, c'est là que nous l'avons croisée. Et puis, tu vois, William, c'est un vrai carrefour ce festival, hein, parce que cette personne maintenant, elle est devenue chroniqueuse pour la nouvelle saison 14 des Artistes ont la parole. Et c'est tout de suite. Et c'est Garance Legroux qui va nous faire rire. Et c'est vrai que rire est tout un art. Hein. Bonjour Garance.
Coucou Michel et Charlie, c'est parti pour la troisième chronique d'humour, qui risque d'être plus une chronique d'humeur qu'une chronique d'humour. Oui, je suis pas d'humeur à l'humour cette semaine. Trop de sujets qui fâchent, et qui fâchent fort. Alors faire des blagues sur des sujets qui mangent pas de pain, du type ma boulangère en... Oh d'ailleurs, cette pauvre dame, je la connais même pas, parce que moi-même, je ne mange pas de pain. Ou alors sur mes enfants, que pour le coup, je connais trop bien et qui passent leur temps à me réclamer du pain. Ou sur mon mari, qui lui, au bout de 20 ans, me connaît toujours aussi mal, hein, mais m'embrasse comme du bon pain. Oh là là, dis donc, il serait temps d'arrêter de tirer sur la corde de cette métaphore boulangère qui commence à devenir longue comme un jour sans pain, hein. Ah pardon, désolé, c'était plus fort que moi. Bref, je disais que je ne suis pas d'humeur à l'humour. Remarquez, c'est le même mot en anglais pour humeur et humour. Humour. Alors on va pour une chronique d'humour. Humour chronicle. That's so nice. Oh non, mais don't worry guys, hein, je ne vais pas pousser le vice à vous la faire en anglais. Ah ben non, non parce que ça va scinder le public en deux. Hein. Ceux qui ne comprendront rien parce qu'ils ne sont pas bilingues et ceux qui ne comprendront rien parce que justement, ils sont bilingues. Oui, l'anglais et moi, ça fait deux. Hein. voire trois si on considère que mon expression en langue anglaise est une sorte de mélasse espérantaise que seuls les fous et les vaches espagnoles peuvent déchiffrer. Oui, je fais partie de cette catégorie de la population qui a été poussée à faire allemand LV1 et a ainsi été sacrifiée sur l'autel de la réconciliation franco-allemande à coup de Brian East India Küche, sous la fallacieuse carotte de devenir ainsi la future élite de la nation. La future élite de la nation. Et aujourd'hui, je suis clown. On remarque, je réfléchis bien, ça fait que j'ai tout à fait ma place dans le gouffre. Oh, dis donc. Oh non, mais on arrive au coup près du temps réglementaire de la chronique. Oh, mais on l'a échappé belle. Non, cette petite bifurcation vers l'allemand élevé, hein, l'élite de la nation et tout le bazar, ça m'a emmené tout droit sur une pente glissante vers un sujet qui fâche, et peut-être même un magnifique point Godwin qui, dans le genre sujet qui fâche... Allez, à au Wiedersehen, Liebling, Michel et Charlie.
Merci, Garance. Garance que vous pouvez retrouver aussi au théâtre. Et c'est, voilà, et tout le monde, c'est une mode hein, dans cette émission, n'est-ce pas Charlie?
Oui, tout à fait. J'avais une question à poser en gamme, une petite dernière. Parmi tous les acteurs, mis à part Daniel, lequel est ton préféré?
Les acteurs en général de cinéma et de théâtre
Comme bon te semble.
J'ai toujours une passion pour Gérard Philippe. Évidemment, il n'est plus de ce monde, mais j'ai toujours beaucoup aimé Gérard Philippe, son romantisme, son élégance, sa précision, sa discrétion, voilà, et sa classe, en quelque sorte. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour lui, mais j'aime beaucoup Daniel Auteuil, j'aime beaucoup Nicolas Bouchaud, qui est un acteur de Jean-François Sibadier, notamment, qui est un acteur extraordinaire. Il y a plein de gens que Xavier Gallet est un très très bon comédien que j'aime bien. Christian Eck aussi, qui joue et sociétaire à la Comédie Française, est un acteur absolument remarquable. Pour ce qui est du cinéma, il y en a plein. Pierre Ninet est formidable. Mais j'adorais aussi évidemment Louis de Funès, Bourville, Marielle, Noiret, enfin, tant de gens. Et puis là, Michel Blanc qui nous a quittés, qui était extraordinaire. Il y a vraiment des comédiens aussi extraordinaires, comme Isabelle Jeannot, Schneider, bien sûr. Il y en a tant, c'est pas facile de faire un choix entre les gens de théâtre plus ou moins connus, les gens de cinéma extrêmement célèbres. J'ai beaucoup d'admiration pour les artistes en général. Je vais souvent au théâtre, je suis allé au théâtre encore hier soir et je disais à mes camarades qui jouaient, qui se buvaient un verre, que je parce que je sais ce que c'est que de répéter, je sais ce que c'est que d'inventer, me tromper, douter, recommencer, chuter, se relever et avoir une épée de Damoclès finalement permanente parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On imagine, on espère que ça va plaire. Qu'il y aura du succès, mais il y a toujours cette, évidemment, c'est ça qui fait le charme de ce métier, de ce monde, une indécision, une incertitude concernant l'avenir d'un spectacle. Et donc, moi, j'admire beaucoup les gens qui font. Alors, il ne faut pas être vulgaire et violent, mais sinon, je trouve que les gens font c'est un métier exceptionnel et j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui le font.
William Mesguich, un fait de société qui te retient l'esprit et sur lesquels tu souhaites réagir?
Il y en a beaucoup, mais alors ce qui est arrivé à la jeune Philippine il y a quelques temps est absolument... Il faut en parler, toujours en parler, toujours continuer à lutter contre la barbarie, se battre infiniment. Mais je vous avoue que ça m'a, enfin comme plein de gens, totalement bouleversé. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. On est au Moyen-Âge et voilà, c'est terrifiant et... Il faut lutter contre cette haine, cette violence exercée contre les femmes notamment. Et je mets un point d'honneur à essayer d'être le plus proche, enfin, des femmes, de les soutenir dans leur combat, dans leur lutte. J'ai deux filles, j'ai plusieurs sœurs, donc j'ai quatre sœurs. Je suis très sensible à ça. Mais je vous avoue que les attentats du 7 octobre dernier m'ont absolument bouleversé également et que ça a été pour moi un choc, comme pour beaucoup de gens, un choc terrifiant, les attentats terroristes du Hamas, et franchement je m'en remets pas encore totalement et ça engendrait bien sûr un déferlement de vengeance et de représailles et de haine, et voilà, donc l'art c'est peut-être l'occasion aussi de lutter contre cette barbarie, évidemment de s'affronter au monde et d'essayer de le rendre, vous le disiez, de rendre de la joie, du bonheur, d'essayer de devenir plus intelligent, de s'améliorer soi-même, et modestement, je tente de le faire avec toutes mes failles, sans doute. On a tous des failles, des névroses, mais il faut toujours être meilleur le lendemain, toujours s'améliorer, tenter les plus belles aventures du monde pour qu'elles nous rendent le plus joyeux et le plus intelligent.
Tu aurais une baguette magique entre les mains, William, tu l'utiliserais comment?
Je souhaiterais infiniment que la paix et l'intelligence et la poésie règnent dans ce monde. Mais avant tout, la paix, parce qu'il y a trop de violence, trop de haine, trop de vengeance. Et puis, bien sûr, réparer toutes les injustices du monde et la misère qui malheureusement existe sur cette terre, en France et dans d'autres pays, dans le monde et dans d'autres pays du monde, évidemment. Et puis voilà, que l'ignorance s'éloigne. Mais si l'ignorance s'éloigne, si l'intelligence et la poésie l'emportent, alors on vivra dans un monde meilleur, c'est certain. Mais on est très loin du compte, malheureusement.
Pour ça, il faut sortir au théâtre. Voilà, ça permet de souffler un peu.
Voilà.
William Mesguich. William Mesguich, cette émission se termine déjà. Ah bah oui.
Ben oui.
Les bonnes choses ont une fin. F-I-N. Quelque chose à rajouter pour la route, William ?
Non, j'étais très heureux de converser avec vous, de partager ce moment-là. Et puis, oui, que les gens aillent au théâtre, que les gens lisent, que les gens fassent attention les uns aux autres, soit dans une douceur, dans la poésie. Moi, je suis un grand idéaliste et je crois encore beaucoup à ça, même si la violence et la misère dans ce monde nous accablent parfois. Il faut se dire que la vie est un miracle et il faut tenter l'aventure du bonheur et de partage des plus belles choses du monde pour nous rendre plus joyeux, je le crois, oui, je crois.
Charlie, quelque chose à ajouter aussi ?
Ah, tu disais le mot de la fin, ça peut correspondre à une pièce qui s'appelle Le Souper, et tu l'écris pas pareil. Non, c'est un plaisir, merci William de nous avoir accordé ces minutes d'entretien. Vraiment un plaisir partagé.
Ben merci beaucoup, merci à vous.
On va se quitter sur un 45 tours. Eh oui, et pas de n'importe lequel. Pas de Benatar, vous êtes fan, Charlie ?
Ah oui, j'aime bien.
Et puis il craque.
Toute cette époque. Et puis en plus, il craque. Donc
On vous a trouvé un bon 45 tours qui craque bien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et effectivement, n'est-ce pas, Charlie ?
Eh oui.
Ben oui.
On sera là.
On sera là, toujours fidèles au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis pendant une heure. Et prenez soin de vous en vous attendant de vous retrouver la semaine prochaine. Pat Benatar, tout de suite dans Les Artistes ont la parole. Pour se quitter, vous pouvez monter le volume. Au revoir, William. Au revoir, tout le monde.
Bientôt, William.